Radio France Internationale, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. En direct de Paris, il est 18h.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Avec Fanny Blechner pour vous le présenter. Bonjour Fanny.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Nous sommes le mercredi 29 mars.
Et au sommaire de cette édition,
la Russie tout d'abord. Pour la première fois, le président Vladimir Poutine dit que les sanctions internationales ont des répercussions sur l'économie de son pays. Charles III est arrivé en Allemagne. Une tragédie douloureuse par ailleurs, ce sont les mots du président mexicain après la mort de 38 migrants. Et puis les relations entre les États-Unis et Israël ne sont pas aussi bonnes qu'avant, nous dira notre correspondant à Jérusalem. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Et commençons ce journal par l'actualité en RDC, la République démocratique du Congo, où des troupes ougandaises vont se déployer dans la ville de Bunagana.
Bunagana, située dans le nord Kivu, cette localité de l'est de la RDC avait été la première ville à passer aux mains des rebelles du M23, c'était il y a 9 mois. Les rebelles doivent libérer Bunagana et ses alentours d'ici le 30 mars, c'est donc demain. C'est ce qui ressort d'un document négocié lors du sommet de l'Union africaine. Pauline Azidi, bonjour.
Bonjour.
Qu'en est-il de la situation sur place ?
Alors, pour l'instant, les rebelles sont toujours à Bunagana. Même si l'information circule depuis hier et que le porte-parole des forces ougandaises a annoncé ce matin une arrivée imminente, c'est-à-dire rapidement, de ses troupes dans la localité située à la frontière, sur le terrain, ce n'est pas encore le cas. Des discussions sont en cours, confie des sources locales. Ça devrait se faire effectivement, mais pas aujourd'hui, assure-t-elle. En revanche, elle nous confirme que des éléments de cette force est-africaine, le AC, des cadres, des officiers gradés sont bien présents à Bunagana pour établir un protocole de retrait et coordonner toutes ces opérations. Cela avait déjà été le cas dans d'autres localités remises par les rebelles aux éléments de l'EAC. En effet, au mois de décembre, et en janvier, c'est devant les journalistes que le M23, le mouvement du 23 mars, avait symboliquement remis aux militaires kényans de la force est-africaine leur position à Kibumba et Rumangabo. C'est au nord de Goma, la capitale de la province.
Paulina Zidi pour toutes ces précisions et nous en reparlerons sur Radio France Internationale dans Afrique Soir.
À la frontière entre le Mexique et les États-Unis, 38 morts et 28 blessés. C'est le bilan de l'incendie d'hier dans un centre de détention pour migrants à Ciudad Juárez.
Les victimes, Fanny, étaient originaires du Guatemala, du Honduras, du Venezuela ou encore du Salvador. L'enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Le président mexicain Manuel López Obrador, eh bien pour lui, ce sont les migrants eux-mêmes qui ont allumé le feu.
En signe de protestation, ils ont placé des matelas à la porte du centre d'accueil et ils y ont mis le feu, sans imaginer que cela allait provoquer ce terrible malheur.
Manuel López Obrador, le président mexicain.
Il faisait jusqu'à présent comme si de rien n'était. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine reconnaît que les sanctions internationales ont des conséquences négatives sur l'économie de la Russie.
Le président russe admet publiquement que les sanctions, les mesures de rétorsion des Occidentaux affectent l'économie de son pays. En conséquence, Vladimir Poutine demande aujourd'hui à son gouvernement et aux dirigeants d'entreprises russes de lancer de nouveaux projets industriels pour la Russie, en particulier dans le secteur de la haute technologie.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Israël, États-Unis, ils sont amis de longue date, leurs relations se dégradent.
En cause, le projet de réforme de la justice en Israël. Après 3 mois de contestation, Benjamin Netanyahou a fini par céder à la pression de la rue. Le premier ministre israélien suspend son projet contesté. Et c'est bien ce qui inquiète le président américain qui aurait préféré un retrait définitif du texte. Benjamin Netanyahou lui répond, il demande à Joe Biden de ne pas interférer dans les affaires d'Israël. Sami Boukhalifa nous appelle de Jérusalem.
Le ton est cordial, mais ferme. Dans une série de tweets en anglais et en hébreu, le premier ministre israélien recadre le président américain. Avec Joe Biden, écrit-il, nous partageons 40 ans d'amitié et notre alliance avec les États-Unis est inébranlable. Mais toute pression étrangère, y compris de pays amis, est inacceptable. Cette réaction du premier ministre israélien intervient à la suite d'une déclaration à la presse du président américain. Face caméra, Joe Biden se dit profondément préoccupé par la situation en Israël et souligne la nécessité d'un compromis. Cette inquiétude affichée désormais au sommet de l'État à Washington est réitérée depuis des mois par différents responsables américains et notamment par l'ambassadeur Tom Knight en poste ici à Jérusalem. Mais à chaque fois, les craintes américaines au sujet de la réforme de la justice suscitent des réactions épidermiques du gouvernement israélien. Mêlez-vous de vos propres affaires, a ainsi lancé un ministre israélien il y a quelques semaines. Face à cette situation, Washington, qui a toujours soutenu son allié israélien contre vents et marées, se retrouve dans une position délicate. Pas question d'aller au-delà de la pression verbale. Le soutien militaire, financier et diplomatique de l'État hébreu n'est pas remis en question. Mais Benjamin Netanyahou n'est plus le bienvenu à Washington. Aucune invitation à court terme n'est prévue, indique Joe Biden. Sami Bourfif à Jérusalem, RFI.
RFI en direct de Paris, il est 18h06.
Adrien, le roi d'Angleterre est arrivé en Allemagne.
Le roi Charles III, accueilli cet après-midi à Berlin par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Avant l'Allemagne, le roi d'Angleterre aurait dû d'abord passer par la France, mais ce voyage a dû être reporté en raison de la crise politique et sociale liée à la réforme des retraites.
En France, au lendemain de la 10e journée de mobilisation contre le projet phare d'Emmanuel Macron, 3 dates à retenir.
Nouvelle journée d'action organisée par les syndicats le jeudi 6 avril. Le Conseil constitutionnel, le Conseil des sages, se prononcera sur la réforme des retraites le 14 avril. Et puis, la troisième date n'est pas encore arrêtée. Lundi, mardi, mercredi prochain, les syndicats français attendus en début de semaine dans le bureau de la Première ministre Elisabeth Borne.
En France aussi, les nouvelles technologies au service de la sécurité posent question.
Verrons-nous des caméras dites intelligentes se multiplier à l'approche des Jeux Olympiques de Paris? Des caméras capable d'analyser, d'interpréter les images en temps réel. Lucie Bouteloup, bonjour.
Bonjour.
L'Assemblée nationale française a largement adopté hier un texte de loi sur cet événement sportif mondial que sont les JO, avec un volet sécuritaire.
Au total, 400 députés ont voté hier en faveur du projet de loi face à seulement 93 voix contre. Un succès confortable donc pour la majorité, mais qui provoque de vives inquiétudes de la part de l'opposition. Principale crainte d'une partie de la gauche, que le texte permette de mettre en place durablement des outils de surveillance de la population après les Jeux Olympiques. L'article le plus controversé porte sur la vidéosurveillance dite intelligente, un système qui associe des images prises par des caméras et des drones à des algorithmes. Cet outil permettrait aux forces de l'ordre de détecter des comportements suspects.
Mais Lucie, à partir de quand pourrait-on voir arriver ces caméras intelligentes?
Eh bien Adrien, le projet de loi Jeux Olympiques prévoit que ce type de dispositif pourra être mis en place à titre expérimental dès que la loi sera votée pour toutes les importantes manifestations sportives, récréatives ou culturelles. La prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroule à partir du 8 septembre prochain pourrait donc faire office de premier test, Adrien.
Et quand est-ce qu'on saura si ce projet de loi est définitivement adopté?
Eh bien, le texte doit maintenant être examiné en commission mixte et si les députés et les sénateurs se mettent d'accord, il sera soumis au vote définitif de l'Assemblée le 11 avril prochain et à celui du Sénat dès le lendemain.
Lucie Bouteloup dans ce journal En français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci également Fanny Blechner de m'avoir accompagnée. Et puis sachez que vous pouvez le retrouver version écrite, version audio, quand vous voulez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.